Internet. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une grosse affaire. Très grosse affaire, assez connue, ça a été quelque chose d'important aux États-Unis.
Cela pourrait être qu'une histoire de chiffres, 110 millions de vues sur YouTube, 633 000 abonnés sur le même réseau, 142 000 sur Instagram, 38 500 sur Twitter. Mais le parcours de Victoria Charlton est bien plus que des chiffres. C'est l'histoire d'une diplômée en littérature, férue de faits divers, qui décline sur YouTube son art du récit. Elle raconte avec passion des enquêtes liées à des meurtres, à des disparitions. Elle réenquête parfois, crée un lien avec son public, des fans prêts à attendre de longues heures pour une dédicace sur la première page de son nouveau roman. C'est un livre, son nouveau roman, et tombe les têtes. Comment expliquer une telle fascination pour des histoires souvent sordides? Quel est le pouvoir magique de Victoria Charlton pour nous tenir en haleine devant l'écran? Rencontre avec une Québécoise qui n'a peur de rien ou de presque rien.
L'Instant M. Eva Rock sur France Inter.
Bonjour Victoria Charlton.
Bonjour, ça va bien?
Moi, ça va très bien. Et vous?
Oui, super. Merci.
Vous êtes de passage en France pour présenter votre dernier roman et Tombe les têtes, votre dernier et votre premier roman d'ailleurs aux éditions de L'Homme, on va en reparler. Le titre donne le ton du récit hein, et Tombe les têtes. On comprend bien que c'est pas une comédie mais bien un polar, une enquête comme vous les aimez, comme vous les déclinez sur votre chaîne YouTube depuis 2016. Il paraît que 66% de votre public est français, mais évidemment, il y a encore beaucoup de Français et de Françaises qui ne vous connaissent pas. Petite question, quand vous devez remplir un papier administratif et que vous voyez la case profession, vous mettez quoi?
On me demande, en fait, même moi, je me le demande. Là, je dis créatrice de contenu, des fois autrice, youtubeuse, mais je ne sais pas.
Vous ne savez pas vous-même,
non,
en fait.
Non, mais quand on me demande aux douanes, là, genre, c'est quoi votre métier, je ne sais pas quoi répondre.
Vous ne répondez pas enquêtrice?
Non, pas, non, pas du tout. En fait, moi, je raconte des histoires. J'enquête très rarement, mais...
Très rarement, mais est-ce que vous n'avez pas fait des études de détective privée pour renforcer votre connaissance du métier?
Oui, j'ai passé... j'ai fait un cours en ligne pour être détective... Enquêtrice privée, qu'on dit.
Oui.
Je pense private investigator en anglais. Mais c'était vraiment juste pour avoir des connaissances, là, acquérir des connaissances. Oui.
Mais est-ce que vous étiez prédestinée à créer une chaîne YouTube spécialisée dans les faits divers?
Non.
C'était une évidence pour vous ou pas du tout?
Pas du tout.
Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une histoire en particulier qui vous a marqué?
Effectivement, oui, il y a eu une histoire. Ben, j'en parle souvent, mais c'est la mort irrésolue d'Elisa Lam. Et je suis devenue obsédée par cette histoire. Je la racontais toujours. Et
quand je vais la résumer, pardon. Hein, c'est une jeune étudiante québécoise qui a été retrouvée morte dans un hôtel.
Canadienne, oui.
Pardon. Et en l'occurrence, dans cet hôtel, il y avait déjà eu plusieurs meurtres. Hein, et on n'a jamais su ce qui s'était passé.
Ben là, il y a un documentaire qui vient de sortir sur Netflix qui explique que ça serait une mort accidentelle. Donc, là, il y a moins de mystère à cette histoire. Mais, ah, mon Dieu, quand je suis vraiment tombée dans un rabbit hole, comme on dit. Là.
C'est quoi, rabbit hole?
Rabbit hole, c'est comme tu t'enfonces dans une histoire puis tu n'es plus capable d'en sortir tellement qu'il y a des couches et des couches. Et c'est un gros mystère. Et quand je faisais les recherches, je trouvais qu'il n'y avait rien en français. En fait, tout était en anglais. Il n'y avait pas de documents en français. Il n'y avait pas de chaîne YouTube qui l'expliquait. Donc, j'ai pris ma place en faisant ça, oui.
Mais est-ce que ça a été vraiment un déclic ou vous étiez déjà fascinée par toutes ces histoires?
Et c'est sûr que ça m'a toujours intéressée. Je sais que vous, les Français, vous adorez ce type d'histoire aussi. Vous avez beaucoup d'émissions. Au Québec aussi, on a Canal D, qu'on appelle Canal Investigation. Et quand j'étais jeune, j'ai grandi avec ça. Donc, ça m'intéressait, mais je pensais jamais en faire une carrière.
Vous savez, en France, parfois, on vous qualifie de la Pierre Bellemare 2.0. Vous savez qui est Pierre Bellemare?
Oui, il est connu au Québec aussi. Oui.
C'est vrai?
Oui, oui.
Et Christophe Andelatte, par exemple?
Oui, je vais le rencontrer d'ailleurs demain ou après-demain. Oui.
Vous faites une rencontre entre deux personnes qui racontent des faits divers.
Ouais, oui.
Et ça vous passionne au point que vous en écoutez aussi parce que ça vous donne un peu des façons de savoir comment mieux raconter ou
J'ai comme pris une pause d'en écouter parce que je fais juste ça de mes journées là, faire du true crime, les faits divers. Donc j'ai pris un recul comme quand je veux relaxer, je vais écouter des podcasts humoristiques. Avant j'écoutais du true crime, mais là faut que je prenne une pause, sinon je baigne dans les meurtres et dans les disparitions toujours.
Alors, mais qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le fait de faire ces vidéos qui donc reviennent sur des affaires criminelles? Est-ce que c'est l'enquête que vous menez parce que vous faites beaucoup de recherches? Ouais. Est-ce que c'est la médiatisation de cette enquête? Est-ce que c'est les liens avec les proches que vous pouvez établir avec les proches des disparus ou le lien avec votre public? Qu'est-ce qui vous fascine le plus?
C'est un mélange de tout ça. J'adore la partie recherche, essayer de trouver des éléments. Mais en fait, moi, j'essaie de raconter n'importe quelle histoire un peu banale, entre guillemets. C'est jamais banal parce qu'on s'entend que c'est des disparitions, mais j'essaie de la rendre intéressante pour genre créer un buzz autour de cette histoire pour qu'on en parle plus dans les médias. Il y a souvent des familles françaises et québécoises qui m'approchent pour que je donne la visibilité à leur histoire. Par exemple, ma sœur, elle a disparu, ça fait 40 ans. Peux-tu en parler? Et à première vue, c'est une histoire qui a pas beaucoup de détails, que ça qu'il y a moins de mystère, mais moi, j'essaie de rendre ça justement un peu mystérieux, intéressant, pour que mes abonnés veulent... Ben, c'est ça, créer un buzz, veulent s'y intéresser. Et là, c'est arrivé que par la suite, des histoires qui avaient aucune attention médiatique, ensuite, les familles se font inviter à la radio. Il y a des articles qui sont écrits sur
Et ça aboutit parfois à la résolution de certaines affaires?
Non.
Pas encore. Vous aimeriez bien?
Oui, j'aimerais bien. Il y a une jeune femme qui m'a approchée. Son père avait été assassiné il y a une vingtaine d'années. Je l'ai reçue en onde et par la suite, elle a été contactée par des témoins qui ont donné carrément les noms des personnes qui avaient tué son père. Et là, l'enquête, elle a évolué, mais c'est pas résolu encore. Ouais.
Alors, Victoria Charlton, l'histoire des relations entre les faits divers et les médias, et vous le disiez, en France, on est très friand de ça, mais cette relation, elle est très ancienne. Les affaires criminelles ont toujours fait vendre du papier, par exemple, avant d'être déclinées alors en émission de radio, en émission de télé, en podcast, et donc aujourd'hui sur les chaînes YouTube. Vous avez été une des premières sur YouTube à vous emparer de ce sujet. Oui. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la seule. Je pense notamment à Sonia Lou en France, dont la chaîne a aussi beaucoup de succès. Comment vous arrivez à expliquer cette curiosité que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir pour les faits divers?
Je crois qu'on a toujours été intéressés par ça. C'est une bonne question que même moi, je me pose parce qu'on me la demande souvent. Puis moi, je dis toujours, c'est comme quand on est sur la route et il y a un accident de l'autre côté de la route, ben on va ralentir pour regarder ce qui se passe, non? Donc je crois que c'est un peu ça, c'est un
côté voyeuriste quelque
part. Un peu, je crois. On essaie d'expliquer parce qu'en ce moment, bon, au Québec, on a énormément de féminicides. On dirait qu'on est comme dans une passe qu'il y a beaucoup de féminicides. Donc peut-être c'est une manière de l'expliquer, de s'y intéresser. J'ai des réponses différentes à chaque fois. Je sais pas c'est quoi la bonne, mais effectivement, en ce moment avec les documentaires Netflix, il y a un gain, là. Ben, c'est pas un gain, il y a beaucoup d'attention qu'on y donne. Ouais.
Oui, mais alors justement, qu'est-ce qu'un fait divers raconte de notre société, selon vous? Parce que là, vous me parlez des féminicides, par exemple. Est-ce que derrière ces histoires-là, au fond, il n'y a pas quelque chose de la société qui se dessine et qui vous intéresse aussi?
Peut-être. Parce que ça dépend. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider à résoudre des disparitions. Mais en effet, je sais pas si ça dit quelque chose sur notre société, parce que je sais que quand je vais en France, on me dit souvent, nous, les Français, on adore ce genre d'histoire. Au Québec, on me dit la même chose. Aux États-Unis aussi, ils adorent, il y a tellement d'émissions. Donc, en effet, pourquoi on s'y intéresse plus en ce moment? C'est une bonne question.
Mais alors, au cours de vos vidéos, par exemple, il y a un sujet que vous évoquez, moi, qui m'intéresse énormément. Vous évoquez le Missing White Woman Syndrome, le syndrome de la femme blanche disparue. Vous dites qu'en fonction du sexe des protagonistes, de leur couleur de peau, les affaires peuvent prendre des tournures différentes. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, absolument. Puis je vais en parler. Je vais avoir une série télé. Là. Bon, on peut en parler plus tard. Puis ça, c'est vraiment, ça tourne autour de ça. C'est... Ça dépend de la classe sociale de la victime, le sexe, la couleur de la peau. Même si l'apparence physique, si la victime, la personne disparue ou assassinée, elle est belle, on va plus lui donner de l'attention médiatique que si, par exemple, bon, elle vient... si elle est plus vieille, par exemple. Si c'est un homme, il y a moins d'attention médiatique souvent qu'une femme. Donc, les femmes blanches assez jeunes ou les enfants ont plus d'attention médiatique et on peut faire carrément des comparaisons. Deux enfants qui ont disparu la même journée, ils viennent de classes sociales différentes, ils ont le même âge là, puis la belle petite fille blonde va avoir plus d'attention que l'autre enfant, par exemple.
Mais ça vous choque?
Oui, absolument. Moi, j'essaie de donner de la visibilité à tout. Mais ce qui est difficile, c'est que les cas les plus intéressants ou les cas qu'on me demande de couvrir sur ma chaîne ou qu'il y a plus d'archives, plus de vidéos, photos, c'est les cas de ces jeunes femmes disparues. Donc, nécessairement, ma vidéo va être plus intéressante, va avoir plus de vues. J'essaie de donner de la visibilité justement à tout le monde, mais c'est un cercle vicieux. Tu sais, des fois, il y a une famille qui va m'approcher, ou même pas, on me demande de couvrir une histoire de, je sais pas, un homme de 40 ans qui disparaît, mais il y a rien, il y a aucune information. Donc, ça rend mon travail difficile, je peux pas inventer. Ouais.
Mais alors, est-ce que vous constatez, par exemple, un nombre de vues différent sur vos vidéos en fonction de, justement, si c'est un enfant blanc ou une femme blanche jolie, oui, comme vous dites, plutôt qu'un enfant noir ou un homme noir sur lequel il n'y a pas eu beaucoup de recherches?
Ah oui, absolument, là, parce que oui, c'est fou, j'ai... Mes vidéos les plus populaires, c'est des femmes blanches qui ont été assassinées ou qui ont disparu, ouais, qui sont dans les millions de vues. Tandis que quand c'est des, ben souvent c'est des cas moins connus, donc les gens vont avoir moins tendance à cliquer, oui, dessus quand c'est des, justement des hommes ou des personnes de couleur. Ouais.
Vous vous êtes spécialisée, Victoria Charlton, au fil du temps dans les cold cases, hein, c'est-à-dire les cas de disparition non résolue, mm-hmm, pour utiliser l'expression française. c'est le cas de l'affaire Jared Atadero que vous racontez, que vous retracez parfaitement. C'est un enfant de 3 ans qui a disparu dans une montagne du Colorado, ouais, dans d'étranges circonstances. 3 ans après cette disparition, on va retrouver ses vêtements, une dent, un petit bout de l'os de son crâne, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Vous racontez donc l'histoire avec beaucoup de détails et comme à chaque fois, vous vous adressez aux internautes.
Dites-moi vos théories. Il n'y en a pas gros, là. Il n'y en a pas gros théories, là. C'est attaque d'animal, meurtre, noyade, mort par hypothermie, mais ça me surprendrait bien gros, là. En tout cas, j'ai hâte de vous entendre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Alors, vous n'êtes pas la seule à faire appel aux citoyens, aux citoyennes pour résoudre une affaire. Ça existe aussi depuis très longtemps. Sauf qu'Internet a tout changé. Qu'il y a des sites qui fleurissent, qui sont spécialisés dans la résolution de crimes. Aux États-Unis, on appelle ça des web sleuths, c'est ça?
Ouais, web sleuths, ouais.
Ça veut dire quoi, web sleuths?
Web sleuths, c'est des détectives de l'Internet. Il y a des cas qui ont été résolus grâce à des web sleuths ou qui ont des web sleuths, là, comme on dit, des armchair detectives aussi, des détectives dans leur salon qui ont fait avancer des cas connus. Ouais.
Et vous faites partie vous-même d'une organisation, The Doe, oui, Network, c'est ça?
Oui, le Doe Network, oui. Ouais. En effet, moi, j'essaie de faire des matchs entre des personnes disparues et des John Doe, Jane Doe, donc des corps retrouvés sans identité.
D'accord.
Donc, des corps qu'on retrouve, donc on appelle ça des John Doe, Jane Doe. Ça arrive des fois qu'on n'est pas capable de les identifier. Donc, on se demande s'il n'y a pas des matchs à faire avec les milliers de personnes disparues.
Voilà, les corps non identifiés, voilà, les corps anonymes, avec des personnes qui ont été déclarées disparues. Voilà. Et vous essayez de faire des relations entre cela. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à s'improviser enquêteur? On a vu des cas où, par exemple, la rumeur prend le pas sur un travail de terrain, par exemple, où des médiums les plus farfelus disent avoir des solutions. Comment vous réagissez face à ça? Vous êtes d'accord qu'il faut garder
absolument
une certaine précaution?
Oui, moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je me lance pas dans des enquêtes, à moins d'être bien entourée, là. Comme dans ma... Là, je vais avoir une émission, c'est ça. J'ai une équipe de recherchistes, un réalisateur. Donc, je suis bien entourée. Là, ce que je fais pour le Doe Network, c'est un site de bénévoles. On est en lien avec en contact avec la police. Donc, il y a pas de danger. Mais en effet, s'improviser détective ou accuser des personnes sur l'Internet, ça, je fais toujours très attention. Moi, ce que je veux, c'est raconter des histoires et non accuser des personnes non coupables. Ouais.
Toute votre activité aujourd'hui tourne autour de ces histoires de faits divers. Hein. Vous aviez déjà publié 2 livres qui reprenaient des affaires, mais là, vous changez de registre puisque vous publiez avec Alexandre Soubière un roman, Et tombe les têtes. C'est l'histoire de Mackenzie Martin. Elle est créatrice d'un podcast de True Crime, très populaire, et qui va se donner pour mission de retrouver les têtes cachées des victimes du tueur en série Robert Sinclair. Pourquoi ce besoin d'inventer une histoire avec au passage une héroïne qui vous ressemble énormément,
ouais,
quand même?
Effectivement,
on est d'accord.
Ouais. Même que ma maison d'édition m'avait demandé, on pourrait lui donner ton nom carrément. Je disais non, on va pas donner mon nom à la protagoniste. Mais je voulais rendre ça comme... Moi, je suis dans l'univers, je baigne dans l'univers des podcasts, j'ai des abonnés. Je voulais comme le refléter en roman, parce que c'est quelque chose que je connais. Et mon co-écrivain, Alexandre Soublière, ben, il a vraiment embarqué là-dedans. Lui, c'est un romancier au Québec qui a quand même une bonne notoriété. Mais je voulais effectivement explorer l'univers des romans depuis longtemps. Et là, l'occasion s'est présentée à moi. Ouais.
Alors, votre héroïne, elle a une obsession, les audiences de son podcast. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que ça vous obsède? Est-ce que ça vous contrarie même parfois?
J'aurais dit que non.
Mais c'est pas vrai.
Non, mais c'est pas vrai, non. Si j'ai des vidéos qui marchent moins bien, là, je vais être des jours à y penser pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Est-ce que c'est le titre que j'aurais dû changer? Donc, je pense que tous les YouTubeurs, podcasteurs, on en vient un peu, pas obsédés, mais en fait, c'est notre travail. Donc, on dépend un peu des vues, ouais.
Mais alors, j'ai été d'ailleurs, petite question au passage, j'ai été très surprise par le nombre de publicités dans vos vidéos et vos partenariats que vous annoncez très clairement en début de ces vidéos. Qui sont les marques qui vous sollicitent pour participer à vos podcasts et à vos vidéos?
Parce que c'est pas des marques de maquillage,
on s'entend. On est bien d'accord.
Mais je fais toujours des partenariats presque avec toujours les mêmes compagnies. C'est souvent des compagnies de VPN ou des logiciels parce que ça s'annonce bien sur une chaîne de true crime. Sur Instagram, là, je me laisse plus aller.
VPN, vous pouvez expliquer?
VPN, oui. Un VPN, c'est pour changer, par exemple, ici, je peux pas regarder mes émissions de télé-réalité au Québec, donc je vais à un VPN du Canada.
Voilà, on navigue pour être caché. ce roman, vos fans l'attendaient, hein, vous développez depuis des années une relation très forte avec eux. Alors, ça donne des moments étonnants, parfois, parce que vous racontez dans vos vidéos un peu votre vie, vos amours, vos déménagements, et vous êtes tellement attentive à vos abonnés que parfois vous vous excusez quand il s'agit d'annoncer une bonne nouvelle mais qui pourrait avoir pour conséquence moins de publications de vidéos de votre part.
Là, je vais faire une excuse formelle. J'ai annoncé récemment que j'avais écrit un livre et que je vais avoir une série télé. Je ne l'ai pas annoncé ici. Je ne peux pas dire beaucoup de détails, mais ça va s'appeler Évaporée, Victoria Charlton Enquête. Ça va être diffusé au Québec sur la nouvelle plateforme Vrai. Qui fait partie de Vidéotron Illico. Je peux pas dire encore la date que ça va sortir pour la simple bonne raison que je le sais pas moi non plus, mais ça va être moi qui va enquêter sur 3 cas de disparition québécois vraiment intéressant là, puis on avance dans les enquêtes là. Hey, j'ai même dû passer un polygraphe. C'est capoté, c'est tellement passionnant.
Oui, je vois que vous riez, parce que vous savez déjà la question que je vais vous poser, Victoria Charlton. Est-ce que les internautes d'abord vous font des remarques sur votre accent?
Oui.
Parce qu'il y a certains mots et certaines expressions, par ailleurs, qu'on ne comprend pas. Polygraphe, je ne sais pas ce que c'est. Le verbe capoter, je ne sais pas ce que c'est.
Mais un test du polygraphe, c'est un détecteur de mensonges.
Ah, ben oui, mais ça vous paraît évident, mais non, ça ne l'est pas du tout.
Non, mais c'est comme le mot formel de dire un détecteur de mensonges.
Et capoter, ça veut dire quoi?
Capoter. Oh mon Dieu, je capote, c'est genre, je vais virer folle, je suis contente, ou je capote, c'est comme. Je sais pas comment vous le traduiriez.
Nous, capoter, c'est un truc qui marche pas.
Ouais, mais ça peut ça.
Ça peut être un peu ça aussi. Est-ce que vous gérez émotionnellement le récit de toutes ces histoires? Ou est-ce que parfois, vous en avez pas un peu gros sur la patate, comme on dit notre expression française?
Ouais, ben, je pense que je le gère bien dans le sens que c'est une nouvelle histoire par semaine que je recherche, ou même plus qu'une histoire. Donc, j'essaie de me créer une distance, mais en effet, quand je suis en contact avec les familles, là, ça va plus m'atteindre. Mais c'est sûr que c'est toujours du négatif dans ma vie. Là.
Il faut pouvoir avoir quelques moments de respiration.
Effectivement.
Une petite dernière question, Victoria Charlton. Oui. À qui vous pensez quand vous enregistrez vos vidéos? Qui sont les personnes que vous imaginez devant vous?
Moi, je pense toujours, et j'essaie de garder beaucoup de respect, je pense toujours que le père de la victime ou la famille va me regarder. Donc,
vous pensez à eux?
Oui.
Merci beaucoup, Victoria Charlton. Vous serez en dédicace demain à Paris, vendredi et samedi, respectivement à Lille et Lyon pour votre roman Et tombe les têtes, publié aux éditions de l'Homme. Et vos vidéos sont à voir sur YouTube. Vos récits sont aussi disponibles en podcast.